Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, merci d'être présents pour ce deuxième café historique à Luynes. Et donc, je suis ravi de nouveau du partenariat entre les rendez-vous de l'histoire de Blois et l'association L'Autre Terre Libérée. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Thierry de L'Autre Terre Libérée qui va nous présenter le café historique.
Merci, bonsoir à tous. On peut faire un petit détour provisoire par le Portugal, puisqu'on est le 25 avril. Donc ça fait 50 ans qu'il s'est passé des choses au Portugal, notamment à partir d'une chanson qui avait été écrite par un prof d'histoire, José Afonso, révoqué par la dictature salazariste, Grande Dola Vila Morena. Vous avez peut-être entendu, puisque aujourd'hui, sur pas mal de radios, cette chanson a été diffusée, et qui donnait le signal, sur une radio de Lisbonne, le signal d'un coup d'État, en fait, organisé par des jeunes capitaines du mouvement des forces armées. Et alors, ça aurait dû en rester là, puisque les premiers communiqués de ce mouvement des forces armées demandaient à la population de Lisbonne surtout de ne pas sortir, de rester chez elle, cloîtrée, de laisser les militaires faire leur affaire. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque la population est descendue dans la rue assez tôt le matin, pour déjà voir ce qui se passait et puis soutenir en fait ce mouvement insurrectionnel. Ça a pris une ampleur assez considérable puisque à partir du putsch de ces jeunes capitaines donc, qui ont occupé l'essentiel des points stratégiques, qui ont occupé les casernes pour éviter qu'il y ait une rébellion des militaires loyalistes, on va dire, ça s'est étendu à tout le Portugal, aussi bien aux chantiers navals, aux usines, aux grandes exploitations du sud notamment, que les paysans ont commencé à occuper. Et si on peut faire le point, on va dire, la relation avec ce dont va nous parler Guillaume, c'est que, assez rapidement, ce sont les propres organisations, en fait, des travailleurs portugais qui ont commencé à mettre les holas et à mettre en œuvre un certain nombre de procédés visant à enrayer, finalement, la révolution des œillets, comme on l'a appelé par la suite, à continuer à développer son cours. Alors, on est ravis à L'Autre Terre Libérée d'accueillir Guillaume Navranche, donc, qui est journaliste, historien. Vous pourrez voir un certain nombre de ses bouquins sur la table là-bas, qui est assez fourni grâce à Bédélire, notamment. Et donc, peut-être que le point commun entre ce qui s'est passé au Portugal il y a 50 ans et puis ce qui s'est passé en France autour des années 1919-1920, c'est qu'un mouvement qui s'est développé, qui a pris de l'ampleur, s'est en fait assez vite trouvé confronté aux propres directions du mouvement ouvrier français de l'époque, et notamment à la CGT. Je ne vais pas trop dévoiler ce que Guillaume va nous raconter. On remercie évidemment les cafés, les rendez-vous de l'histoire, les cafés historiques, comme ça vient d'être fait. Chez Marie-Louise aussi, qui collabore toujours avec nous pour ses conférences ou causeries. La mairie qui nous a gracieusement prêté les halles, plus on va dire toute une partie de la logistique. Et donc je passe tout de suite la parole à Guillaume Navranche. Merci beaucoup Guillaume.
Merci. Merci. Eh ben, écoutez, effectivement, ce soir je vais vous parler pas spécifiquement de Louis Rimbaud, je vais vous en parler un peu. Vous savez, Louis Rimbaud qui a fini sa vie ici à Luynes en 1949. C'est un type qui a eu plusieurs vies, hein. Il a eu plusieurs vies, et je vais vous parler d'un épisode précis de sa vie, qui est le rôle qu'il a joué dans les grandes grèves de la métallurgie parisienne en 1919. Côté des grèves presque insurrectionnelles, hein, qui ont été vraiment un truc très important, qui est tombé dans l'oubli, hein, globalement, c'est pas resté dans l'imaginaire, mais c'est un épisode historique important qui a été pas mal étudié, sur lequel on sait pas mal de choses. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé en fait en région parisienne en 1919, il faut se resituer dans le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un contexte où en fait, après avoir souffert pendant 4 ans, il y a un certain nombre de pays d'Europe qui ont connu des troubles révolutionnaires. On connaît la révolution russe en 1917, mais il y a eu également des troubles révolutionnaires en Allemagne, en Hongrie, dans un certain nombre de pays et en France. En France, les troubles révolutionnaires, c'est justement ces grandes grèves de 1919. Puis ensuite, on pourra parler de la grève des cheminots de 1920, qui s'inscrivent aussi dans ce cadre. Mais en 1919, quand les gens rentrent du front, la situation sociale et économique, elle est désastreuse, en fait. C'est extrêmement dur. Le retour des mobilisés du front, déjà, ça multiplie le chômage par 10 en quelques mois à Paris. Les prix explosent, il y a une inflation terrible, alors que les salaires quasiment ont été bloqués depuis 1914. Ça crée donc une crise sociale extrêmement forte et il y a une ébullition sociale. Voilà. Il y a une ébullition sociale. On le sent aussi à la hausse des effectifs syndicaux. Parce que, si vous voulez, la CGT, en 1914, c'est à peu près 400 000 adhérents. Hein. Elle était très affaiblie à ce moment-là, c'est 400 000 adhérents. Pendant la guerre, ça descend vraiment très très bas. Les syndicats étaient réduits à des noyaux militants, mais tout le monde était parti, il ne se passait plus rien, on ne faisait plus que gérer les affaires. Mais à partir de 1917, les luttes et les grèves reprennent. Et là, il y a un redémarrage en fait, de la lutte des classes à partir de 1917, il y a une hausse quasiment verticale des effectifs, c'est complètement délirant. On se retrouve avec des syndicats qui grossissent d'un coup, et je vous ai dit qu'en 1914, la CGT était à 400 000 adhérents, en 1919, elle est à peu près 1 200 000. C'est-à-dire qu'on a multiplié les effectifs par 3 entre 1917 et 1919. C'est absolument... Enfin, pas par 3, par bien plus, en fait, parce qu'on était tombé à 100 000, 200 000, hein, à tout casser. Donc, c'est considérable. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et ça donne évidemment de la force, du courage et de la confiance aux militants pour se dire « on va tenter quelque chose ». Face à cela, le gouvernement, il a peur. Le gouvernement, c'est Clémenceau. Clémenceau, tout le monde le connaît comme le père la victoire, le tigre, etc. Bon, tout ça, c'est des images journalistiques. Il faut savoir que dans le mouvement ouvrier, Clémenceau, il était détesté. OK ? Il était détesté, on l'appelait l'horrible vieillard. Il était connu comme un abominable briseur de grève, fusilleur d'ouvriers, etc. Il traînait le boulet de ce qu'il avait fait en 1907, en 1908, en tirant dans la foule, sur la foule des grévistes, que ce soit du côté d'Épinal ou que ce soit les grèves de Draveil-Vigneux dans le sud de Paris, avec des morts à chaque fois. Et puis en 1917, quand il a été président du Conseil, il s'est surtout illustré au départ en organisant la répression des pacifistes. Et donc il a mis pas mal de monde en tôle, il a fait pas mal de répression contre les pacifistes, et pour ça il est détesté aussi. Donc voilà, il faut se garder de l'image journalistique de Clémenceau, ce héros. Dans le mouvement ouvrier de l'époque, il n'est pas du tout aimé. Mais il est toujours au pouvoir, hein, en 1919, il est toujours là. Mais il a peur. Il a peur et il tient des discours rassurants en direction d'ailleurs de la CGT, en disant « ah bon, je comprends bien que voilà, il va falloir faire des choses ». Et là, effectivement, le gouvernement français va céder sur une revendication historique du mouvement ouvrier, puisqu'en avril 1919, le gouvernement fait voter à l'Assemblée les 8 heures de travail. La revendication des 8 heures, c'est un truc structurant, extrêmement important à ce moment-là, depuis, je crois qu'on en parle depuis 1890 à peu près, c'est une revendication centrale. Donc là, vous voyez, à peu près 30 ans plus tard, le gouvernement cède sur cette revendication historique. La journée de 8 heures. Alors attention, ne vous méprenez pas. La journée de 8 heures, c'est pas la semaine de 40. Hein. C'est la semaine de 48 heures, parce qu'on travaille 6 jours par semaine, voilà, du lundi au samedi. Donc le gouvernement cède quand même sur cette revendication historique, la semaine de 48 heures, la journée de 8 heures. En face à lui, il y a la CGT. Mais qu'est-ce que c'est la CGT en fait en 1919? Qu'est-ce que c'est la CGT? La CGT, c'est une organisation qui est fracturée. Déjà, c'est une organisation dont la base est immense, je vous ai dit 1 200 000 adhérents, mais pour l'essentiel, c'est des jeunes gens, quoi. Souvent, ils se qualifient eux-mêmes de nés de la guerre, les militants de cette époque. Nés de la guerre, ça veut dire, avant 14, ils militaient pas. Ils ont pris conscience, ils ont eu une conscience politique qui s'est développée dans le refus de la guerre, dans la crise sociale que ça représentait, et ils s'auto-intitulent comme ça souvent, nés de la guerre. Donc c'est des jeunes militants qui en veulent, qui veulent éventuellement tout renverser, et qui ne se satisfont pas du tout de la lenteur et de la circonspection, on va dire, de la direction confédérale de la CGT. Et là, je vais devoir faire un tout petit retour en arrière pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe au sein de la CGT en 1919. Je vais devoir faire un tout petit retour en arrière en 1914. En 1914, la CGT, c'est une organisation qui est affaiblie. Hein, voilà, elle a pris beaucoup, beaucoup de coups de la part du gouvernement. Elle a subi une très forte répression, elle est affaiblie. Mais elle est sur une ligne révolutionnaire. C'est une organisation syndicaliste révolutionnaire. En fait, elle est dirigée par une majorité. Hein, elle n'est pas intégralement révolutionnaire, mais la majorité des fédérations et des syndicats de la CGT sont révolutionnaires, antimilitaristes, et souhaitent donc la révolution, le grand chambardement, se débarrasser du patronat, de façon à ce que l'économie passe sous le contrôle de la société, des travailleuses et des travailleurs. Ça, c'est la ligne. Mais en 1914, la CGT se trouve dans l'incapacité de s'opposer à la déclaration de guerre, et à ce moment-là, sa direction confédérale, majoritairement, va basculer dans ce qu'on appelle l'union sacrée. L'union sacrée, c'est-à-dire, alors ça, au départ, ça s'appelle la trêve des partis, c'est-à-dire de l'extrême gauche à l'extrême droite, on arrête de faire de la politique. Le seul truc qui compte, c'est lutter contre l'Allemagne et lutter contre l'invasion allemande. Et ça va devenir l'union sacrée, où vous allez avoir un gouvernement qui va aller de l'extrême gauche à l'extrême droite. La CGT ne sera pas au gouvernement, mais elle sera en soutien du gouvernement. Voilà. Et donc, vous avez la majorité de la CGT, y compris la majorité révolutionnaire, qui bascule dans l'union sacrée. À la tête de cette majorité d'union sacrée, il y a Léon Jouot. Léon Jouot, un personnage important du syndicalisme français, puisqu'il restera un dirigeant inamovible de la CGT, puis de Force ouvrière jusqu'en 1954, vous voyez, 40 ans plus tard. Et Léon Jouot, c'est vraiment ça deviendra, on va dire, la figure du bureaucrate par la suite. C'est un mot qui n'existe pas trop à l'époque. Ça deviendra un peu la figure du bureaucrate. C'est lui le leader de la majorité d'Union sacrée. Mais face à lui, il y a une minorité qui n'est pas d'accord, qui dénonce la guerre, qui veut rester fidèle aux principes internationalistes d'avant 14, qui dénonce la guerre, qui dénonce l'union sacrée. Et cette minorité, elle est animée par deux individus qui sont très dissemblables. Le premier, c'est Raymond Péricat, qui était un ancien secrétaire de la Fédération du bâtiment. La Fédération du bâtiment, c'était l'épine dorsale du syndicalisme révolutionnaire, c'était la fédération la plus combative, la plus conséquente, la plus importante. C'était vraiment la pépinière du syndicalisme révolutionnaire. Raymond Péricat était son secrétaire, un personnage assez haut en couleur, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui est un peu brouillon parfois, par ailleurs, un peu brouillon, mais néanmoins très batailleur, très populaire, voilà. Et l'autre personnage, qui va être un animateur de la minorité pacifiste de la CGT, c'est un personnage très important aussi. C'est Alphonse Mérème. Et lui, on va en parler parce que lui, justement, il dirigeait la Fédération de la Métallurgie. Alphonse Mérème, c'est un type très important parce que lui, c'est pas le même profil que Péricat. Lui, c'est plutôt un type assez studieux. C'est un type qui étudie les statistiques, etc. Mais c'est un syndicaliste révolutionnaire. Hein. Mais c'est pas un braillard, c'est pas un type qui monte sur des tonneaux pour appeler à la grève. C'est pas son style. Lui, c'est un peu un cerveau. Et il a été, d'ailleurs, le cerveau de la CGT à peu près en 1913-1914. Et quand la guerre éclate, Mérème dit non. Il refuse l'union sacrée, il refuse la guerre, et il dit à Jouot, c'est n'importe quoi ce qui se passe. La guerre se passe. Majorité d'union sacrée, minorité pacifiste et révolutionnaire. Mais en 1918, les choses changent. Il va y avoir une réconciliation. Une réconciliation au centre. C'est-à-dire que, sentant la fin de la guerre approcher, Jouot se dit, bon, la guerre ne va pas durer, il va falloir à un moment donné arrêter de soutenir le gouvernement et revenir un peu plus dans les rails de ce que doit être le syndicalisme, c'est-à-dire un organe de revendication, de combat, etc. Jouot se dit ça. Et d'un autre côté, Mérème se dit, bon, il va falloir faire des choix après la guerre. Soit on va vers une scission de la CGT, soit on renverse Jouot, soit on se réconcilie. Voilà. Et Mérème, en fait, va faire le choix de la réconciliation. Donc chacun des deux va en quelque sorte évoluer vers le centre. Jouot va gauchir son discours, il va se séparer des dirigeants de la CGT qui étaient les plus compromis avec l'Union sacrée, qui étaient les plus nationalistes, les plus germanophobes. Il va se séparer d'eux. Et de son côté, Mérème va adoucir son discours et il va se séparer des militants les plus à l'extrême gauche, ceux qui étaient les plus révolutionnaires, les plus antimilitaristes, les plus pacifistes intransigeants. Et au congrès confédéral de juillet 1918, réconciliation spectaculaire, Jouot, Mérème, qui forment la nouvelle majorité de la CGT. Ce n'est pas une majorité qui se dit réformiste. Ça, on l'appellera comme ça dans quelques temps. Mais à ce moment-là, ils ne se disent pas encore réformistes. Ils n'endossent pas encore ce terme. Je vous rappelle que c'est des gens qui viennent vraiment du syndicalisme révolutionnaire. Ils n'endossent pas le terme réformiste, disons qu'ils se considèrent comme des révolutionnaires qui sont raisonnables, enfin des révolutionnaires qui sont sérieux, pas des braillards, pas des fouteurs de merde. Bon, voilà, on va faire des choses sérieuses. C'est la nouvelle direction confédérale de la CGT en 1918. Et c'est celle qu'on a donc au moment des grèves de la métallurgie en 1919. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il y a toujours une minorité qui, elle, n'est pas d'accord et qui trouve que ces gens-là s'en sortent quand même à bon compte. La minorité révolutionnaire de la CGT, à ce moment-là, en 1919, elle s'organise à peu près autour de 3 organes de presse. Un hebdomadaire qui existe encore, qui s'appelle La Vie ouvrière, qui existe toujours sous le nom de La Nouvelle Vie ouvrière aujourd'hui, qui est en fait un hebdomadaire de la CGT. Donc La Vie ouvrière, qui est animée par des gens d'une certaine envergure, comme Pierre Monat, de la Fédération CGT du Livre, ou comme Gaston Montmousseau, des cheminots, ou d'autres personnages encore, par exemple Marie Guillot, de la Fédération de l'enseignement aussi, voilà, qui est une personne importante. Ça, c'est un des journaux. Alors eux, leur ligne, c'est la révolution russe. Voilà. Bon, ils pensent qu'il faut régénérer la CGT en s'appuyant, en s'inspirant, en se mettant dans les pas de la révolution russe. Ça, c'est La Vie ouvrière. Après, vous avez un autre organe qui est beaucoup plus radical, c'est Le Libertaire. C'est le journal de la Fédération communiste anarchiste, qui a disparu pendant la guerre, mais qui s'est recréé à la toute fin. Là, vous trouvez des militants aussi, qui sont des militants parfois assez notoires dans le mouvement ouvrier. Je pense à Louis Lecoing, mais à ce moment-là, il est en prison, donc il ne va jouer aucun rôle. Mais quelqu'un comme Jules Le Petit, c'est un grand orateur prolétarien de l'époque. Il appartient au syndicat des terrassiers, qui a été pareil, un des syndicats les plus combatifs, les plus radicaux, les plus terribles de la CGT d'avant 14. Jules Le Petit est au Libertaire et à la Fédération communiste anarchiste, par exemple. Et il y a un autre personnage dont on va plus parler ce soir, qui est donc Louis Rimbaud. Voilà. Louis Rimbaud, lui, il est à la Fédération communiste anarchiste et au Libertaire. Et vous avez un troisième organe de presse qui se situe dans cette extrême gauche de la CGT, qui est l'International, avec un E à la fin. L'International, ça, c'est un journal qui a été lancé par Raymond Perica, justement, ce leader de la minorité pacifiste de la CGT. Et lui, Raymond Perica, c'est un type qui, pareil, a les yeux braqués sur la révolution russe et qui cherche comment l'acclimater en France. Il essaye d'inventer une nouvelle doctrine qui s'appellerait le soviétisme, voilà, par exemple. Et il évolue un petit peu dans ces eaux-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, maintenant que je vous ai à peu près planté le décor, qu'est-ce qui se passe en 1919 ? Avril, le gouvernement vote les 8 heures, mais pas que ça. Il fait voter également un truc qui existe toujours, c'est les conventions collectives. Les conventions collectives de branche, qui peuvent être des conventions collectives de branche nationale ou qui peuvent être des conventions collectives aussi régionales. Bon. Et donc il va se passer un truc, c'est qu'au mois de mai, des négociations s'engagent dans la métallurgie. À deux niveaux. Au niveau national, Alphonse Mérême, le dirigeant de la métallurgie, qui s'est donc assagi, négocie avec l'Union des industries métallurgiques et minières, l'UIMM, qui existe toujours, hein, qui est une des colonnes vertébrales du MEDEF. Hein. La Fédération CGT des métaux négocie avec l'UIMM une convention collective nationale pour la métallurgie qui inclurait les 8 heures, donc 48 heures par semaine, hein, et puis également des hausses de salaire, etc., etc., des conditions de travail. Mais en parallèle, il y a une autre négociation qui se joue, en région parisienne. Et là, c'est un autre organisme qui s'appelle le Comité d'entente de la métallurgie parisienne et qui réunit une douzaine de syndicats de la métallurgie. À l'époque, les syndicats sont encore vachement organisés par métier, en fait. Hein. Donc, par exemple, dans la métallurgie, bah, vous avez les tauliers, vous avez les serruriers, vous avez les bronziers, vous avez les charpentiers en fer, vous avez, etc., etc. Voilà. Chaque métier a son propre syndicat. Et après, ils s'entendent au niveau local. Donc, ils ont fait un comité d'entente, voilà, le comité d'entente des métaux de la Seine. Et eux, ils veulent négocier une convention collective région parisienne avec le patronat parisien. Le problème, c'est que la négociation nationale s'achève et la Fédération nationale des métaux de la CGT dit « Ok, pour nous, c'est bon, on a abouti à un accord avec le patronat au niveau national sur 48 heures par semaine, etc. » Et donc, pour nous, c'est bon. Du coup, le patronat parisien répond au comité d'entente de la métallurgie parisienne. Ah, nous, c'est bon, c'est fini. La négociation nationale est réglée, donc nous, on s'aligne dessus et on n'ira pas plus loin. Le problème, c'est que le comité d'entente de la métallurgie parisienne, eux, ils voulaient aller plus loin. Les 48 heures, ça leur suffisait pas, parce que ce n'était pas la revendication de la CGT. La revendication de la CGT, depuis 1911, c'était, au niveau confédéral, hein, c'était la semaine anglaise. La semaine anglaise, c'est quoi ? C'est 44 heures par semaine, avec libération du samedi après-midi. C'était une revendication qui avait été conçue pour favoriser aussi la syndicalisation des femmes, parce que c'était vu comme une revendication qui aurait du succès auprès des ouvrières. Voilà. Donc c'était un truc vraiment très spécifique pour cette raison-là. La revendication confédérale de la CGT, normalement, c'est la semaine anglaise. Les métaux parisiens disent, nous, les 48 heures, on n'en veut pas. Nous, on veut les 44 heures et on va continuer la lutte. Le patronat parisien dit, non, pour nous, c'est fini, les négociations sont terminées. Le 1er juin, les métaux de la Seine convoquent des assemblées générales de leurs syndicats. Alors, la douzaine de syndicats dont je vous parlais, hein, convoquent des assemblées générales. Les assemblées générales de syndiqués, c'est à peu près 12 000 syndiqués, hein, au total. 12 000 syndiqués, les métaux de la Seine. Les assemblées générales se tiennent, toutes les AG décident la grève. Ils appellent à la grève. Le lendemain, c'est un raz-de-marée totalement inattendu. Ça explose, quoi. Il y a, en fait, on sait, hein, il y a à peu près 150 000 à 170 000 grévistes. C'est énorme. Mais à l'époque, des journaux comme L'Humanité ou autres, bon, gonflent un peu les chiffres, hein, on cite des 300 000, 400 000 grévistes. Bon, on n'en est pas là, mais en fait, c'est quand même énorme. Et les meetings sont énormes. Imaginez-vous les meetings de l'époque. Les meetings de l'époque, ça peut être... quand on fait des meetings à l'époque... On fait des meetings dans toutes les bourses du travail des différentes villes de banlieue et on fait des gros meetings dans des grosses salles parisiennes. Dans la salle, vous pouvez avoir 3 000, vous pouvez avoir 5 000, mais vous pouvez avoir 10 000 personnes, en fait, avec 5 000 personnes dans la salle et 5 000 dans la rue, en fait. Sans sonorisation, s'il vous plaît. Je ne sais pas trop exactement comment ça se passait. Je pense qu'en fait, les orateurs devaient parler assez fort, bien sûr, mais qu'on devait retransmettre leurs paroles de loin en loin jusqu'aux gens les plus éloignés, en fait. Parce que des meetings à 10 000 personnes, en fait, je ne comprends même pas comment on pouvait s'entendre. Mais les meetings sont énormes. Les meetings sont énormes et en plus, ils sont vite très, très radicaux, quoi. On n'est pas du tout... ça part sur des revendications qui sont évidemment... Bon, la semaine anglaise, 44 heures, la hausse des salaires. Il y a également une revendication parisienne qui n'avait pas été inclue dans la Convention collective nationale, qui était l'égalité des salaires hommes-femmes, qui n'est pas dans la Convention nationale, mais qui était revendiquée par les syndicats parisiens, qui, vous l'aurez compris, étaient plus à gauche, hein, plus à gauche que la direction nationale. Donc, les meetings sont là-dessus. Les 44 heures, l'égalité hommes-femmes, la hausse des salaires, et on y inclut des revendications politiques. Ces revendications politiques, quelles sont-elles ? C'est vraiment, il y en a trois, hein, c'est simple. En 1919, il y en a trois qui reviennent en boucle tout le temps, à l'époque dans le mouvement ouvrier. C'est l'amnistie pour les détenus politiques, donc c'est essentiellement les pacifistes, hein, qui ont été emprisonnés par Clémenceau. Donc l'amnistie pour les détenus politiques, la démobilisation des soldats qui n'ont toujours pas été démobilisés, il reste encore plein de gens sous les drapeaux, alors que la guerre est finie depuis plus de 6 mois. Mais en fait, il est question plus ou moins ces gens de les utiliser pour les envoyer en Russie pour combattre les Rouges. Et donc la troisième revendication, c'est la non-intervention en Russie révolutionnaire ou en Hongrie révolutionnaire ou en Bavière révolutionnaire. Voilà, donc c'est les trois revendications politiques qui reviennent vraiment dans tous les meetings, quoi. L'amnistie, la non-intervention et... j'ai oublié. L'amnistie, la non-intervention et la démobilisation, voilà. Mais ça va même encore plus loin. En fait, dans le courant de la grève, on verra des scènes où on parle ouvertement, devant des meetings de 3000 grévistes, on parle ouvertement de la Russie révolutionnaire et des soviets. Il y a même... Alors, évidemment, ça peut faire sourire, parce que ça n'a aucun sens, mais dans un meeting à Saint-Denis, par exemple, Saint-Denis, c'est une ville très, très populaire qui est au nord de Paris, dans un meeting à Saint-Denis, devant 3000 grévistes, les 3000 grévistes votent que désormais le comité de grève devient le comité exécutif du soviet de Saint-Denis. Voilà, et donc on rentre dans une phase révolutionnaire. Bon, il y aura, évidemment, ça n'existera que sur le papier, il n'y aura pas de soviet à Saint-Denis puisqu'on n'est pas dans une situation révolutionnaire. Mais c'est vraiment, on est dans ce niveau de radicalité, dans ce niveau d'ébullition politique. Pendant la première semaine de grève, alors la grève a duré 4 semaines en fait, hein, la grève a duré 4 semaines. Pendant la première semaine, on est vraiment sur la phase la plus haute, on est au niveau le plus haut, le plus massif de la grève. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite une photo, parce que ça, c'est les gens de Terre Libérée qui ont trouvé cette photo, que je ne connaissais pas, qu'ils ont achetée dans une agence, ils ont trouvé cette photo, et en faisant des recoupements, c'est quasiment sûr que c'est Louis Rimbaud, hein, le type dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mort à Luynes. Et là, en fait, c'est Louis Rimbaud qui s'exprime, on est le 7 juin 1919, apparemment, et il s'exprime devant une foule de grévistes, et où est-on ? Nous sommes au Pré-Saint-Gervais. Le Pré-Saint-Gervais, c'est une toute petite commune à l'est de Paris. Et à l'époque, en 1919, sur cette commune, il y avait de vastes terrains vagues parce qu'il y avait encore les fortifications de Paris. Hein, elles n'avaient pas été démolies. Et autour des fortifications, il y avait des vastes terrains inconstructibles. C'est là qu'avaient eu lieu, hein, en 1912-1913, les immenses rassemblements pacifistes contre la guerre qui avaient réuni 100 000, 150 000 personnes. C'est là qu'il y a cette fameuse photo de Jaurès qu'on voit au milieu de la foule avec un drapeau au-dessus et sous le ciel. Voilà. Si vous visualisez peut-être cette photo de Jaurès, ça, c'est une photo dans un des grands rassemblements du Pré-Saint-Gervais. Eh bien, on n'a pas perdu l'habitude. En 1919, on fait encore des grands rassemblements au Pré-Saint-Gervais. On en fera jusqu'en 1920. Et après, quand les fortifications seront détruites, ce ne sera plus trop possible. Mais là, on a Louis Rimbaud, c'est quasiment sûr, hein, qui s'adresse à une foule de grévistes au Pré-Saint-Gervais, au-delà des fortifs. On est sur le pic vraiment de la grève, en fait, sur la première semaine. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le patronat fait la sourde oreille, cède pas. Alors dans ces cas-là, on risque, même si on est très nombreux, même si on est une foule et que la foule, ça donne toujours confiance, en fait, la grève, elle est relativement isolée. Parce que les autres corporations, alors quand je dis corporations, je veux dire les autres secteurs industriels, hein, mais à l'époque, on parlait comme ça, les autres secteurs industriels ne bougent pas. Et ça, c'est un gros problème. Par exemple, il y a une AG qui se tient, je crois que c'est le 5 juin. Le 5 juin, il y a une grosse AG du bâtiment parisien. Le bâtiment, comme je vous le disais, avant-guerre, c'était l'avant-garde ouvrière par excellence, quoi. Le bâtiment, dès qu'il fallait faire une grève de solidarité, ils étaient là. Bah, manque de bol, en juin 1919, quand on veut faire une grève de solidarité avec la métallurgie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a deux militants donc, par exemple, assez importants, qui sont donc Jules Le Petit, l'anarchiste dont je vous parlais tout à l'heure, et Raymond Perica, ce grand leader du bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure, ils essayent, hein, ils proposent, hein, ils essayent de dire « Non, mais c'est hyper important, il faut absolument que le bâtiment ne peut pas ne pas marcher, le bâtiment doit marcher, quoi, doit marcher avec les métallos. » Manque de bol, ça ne prend pas, ça ne marche pas, l'AG ne vote pas la grève. Et chez les cheminots, ça ne marche pas non plus. Les deux principaux leaders cheminots du moment, qui sont Gaston Montmousseau, donc lui qui est lié à la vie ouvrière, et Henri Cirole, qui lui est un type de la Fédération communiste anarchiste, pareil, ils proposent la grève. Enfin, ils ne proposent pas la grève, d'ailleurs. Ils sentent que l'ambiance n'y est pas. Ils sentent que ça ne va pas le marché. Donc, ils proposent un truc mi-figue, mi-raisin. Ils disent, on va voter un ultimatum à la direction fédérale des cheminots pour qu'elle appelle à la grève. Bon, évidemment, ça ne marche pas du tout, parce que la direction fédérale des cheminots, elle est plutôt réformiste. Donc, les métallos sont isolés. L'extension horizontale a échoué. L'extension horizontale, c'est qu'on veut réussir à étendre la grève sur le territoire à d'autres corporations. L'extension horizontale a échoué. Quand l'extension horizontale échoue, il reste une solution. C'est l'extension verticale. L'extension verticale, c'est qu'on veut réussir à déclencher la grève dans l'ensemble de la filière métallurgique, dans toute la France. Parce que le patronat, il n'a pas perdu son temps. Il a délocalisé des activités en province. Donc, en fait, les activités tournent à Lyon et dans d'autres centres métallurgiques de la France. Donc là, il faut obtenir absolument le déclenchement de la grève dans les autres centres métallurgiques français et donc faire l'extension verticale de la grève. Mais là, pour réussir ça, la seule solution, ce serait que la Fédération nationale des métaux appelle à la grève. Mais vont-ils le faire ? Vont-ils le faire ? Ça se joue ça à la deuxième semaine de grève. À la deuxième semaine de grève, il y a vraiment un moment de flottement parce que les autres corporations ne bougent pas et on attend, on lance des ultimatums en quelque sorte, mais on attend, on exige que le secrétariat fédéral des métaux appelle à la grève. Or, le secrétariat fédéral des métaux se réunit et vote par 6 voix contre, 4 voix pour et 2 abstentions. Il n'appelle pas à la grève nationale. Attention, nous enflammons pas. S'ils avaient appelé à la grève, ça ne veut pas dire que ça aurait marché. Mais quand même, là, pour les grévistes parisiens, c'est un scandale total. C'est un scandale absolu. Ils font une grève la plus massive qui ait jamais existé dans la métallurgie parisienne, qui était un truc pas archi-combatif avant 14 en plus. Mais là, c'est tellement incroyable ce qui se passe, ils ne comprennent même pas comment c'est possible que le secrétariat des métaux fédéral n'appelle pas à la grève nationale. Il y a une énorme colère. Il y a une énorme colère, mais le comité d'entente des syndicats de la métallurgie parisienne appelle à la poursuite de la grève. Et il va se passer un truc, d'ailleurs, c'est que le comité d'entente, quand même, se sent en grosse difficulté. Parce qu'ils se disent, on a raté l'extension horizontale, on a raté l'extension verticale. Le patronat ne veut pas discuter. Où est-ce qu'on va? Et puis, au bout de 2 semaines de grève, on commence déjà à avoir certaines entreprises qui reprennent le travail. Donc on se dit, la grève risque de s'effriter, quoi. Bon. Dans ces cas-là, vous avez 2 options possibles, quoi. Enfin, vous avez plusieurs options possibles. Vous avez une option qui est de faire comme si de rien n'était, on laisse la grève s'effriter et décliner. Vous avez une option qui est de dire, bon, on reprend le travail en bon ordre. Voilà, c'est-à-dire, on est rentré comme un seul homme dans la grève, on en sort comme un seul homme, mais on ne laisse pas le truc se déliter de façon lamentable. Ou vous avez aussi la possibilité d'essayer de créer la surprise, de créer l'événement, en provoquant des choses, des coups d'éclat qui vont provoquer peut-être un réveil ouvrier et qui vont donner une extension à la grève. Ça, c'est le pari qui va faire l'extrême gauche du comité d'entente des syndicats des métaux de la Seine. Et donc, va se constituer un truc sur la gauche du comité d'entente qui va s'appeler le comité d'action. Alors, le comité d'action, c'est pas grand-chose, en fait. C'est 70 militants, à peu près, déterminés, voilà, où il y a à peu près 2 porte-paroles qui se détachent, qui sont Bestel, qui est un socialiste. Il est membre du Parti Socialiste à Saint-Denis, mais vraiment sur une frange très très révolutionnaire. Et puis, vous avez donc notre ami Louis Rimbaud, qui lui est secrétaire du comité de grève de Paris 20e. Il était taulier, j'ai oublié de le préciser. Lui était taulier, et le syndicat des tauliers était un des syndicats vraiment de gauche au sein de la Fédération des métaux, et qui avait été très opposé à la guerre, etc. Louis Rimbaud, donc, secrétaire du comité de grève de Paris 20e, il est dans le comité d'action. C'est un des meneurs, quoi, voilà. Le problème, c'est que le comité d'action, ils sont plus à gauche, ils sont plus radicaux que le comité d'entente, mais ils ne savent pas trop quoi faire non plus pour que la grève s'étende, quoi. Donc, ils vont tenter un coup d'éclat. Ça va être à peu près leur seul coup d'éclat, parce que, en fait, ils vont faire des meetings, ils vont essayer de radicaliser les gens par la parole, mais ils vont faire un coup d'éclat. Ils vont faire un coup d'éclat, et là, je crois que c'est le 22 mai, donc vous voyez, on est déjà bien avancé dans la grève, ça fait déjà 3 semaines qu'elle dure. Ils vont tenter un coup d'éclat en envahissant une séance du Comité fédéral national des métaux. Alors ça, c'est quoi? C'est pas le secrétariat fédéral, le secrétariat fédéral, je vous ai dit, c'était 12 de personnes. Alors, 6 voix contre la grève, 4 voix pour, 2 abstentions. Le comité fédéral national, c'est une autre instance qui se réunit tous les 3 mois, je crois, à l'époque, et vous avez des délégués de province qui montent, voilà. Donc vous avez toute la France. Donc là, les grévistes parisiens se disent, c'est l'occasion, il faut parler aux métallos de province, il faut leur dire la vérité, il faut leur dire que la direction des métaux est en train de nous trahir, de nous planter un couteau dans le dos, il faut aller parler directement aux délégués de la province. Et donc, pendant que le comité fédéral national se tient, donc là... Vous imaginez que c'est quelques dizaines de délégués. La salle est envahie par 70-75 personnes du comité d'action qui exigent que le comité fédéral national appelle immédiatement à la grève nationale des métaux. Alors, le problème, encore une fois, c'est que, bon, d'une part, il y a des gens qui ne sont pas chauds dès le départ, mais en plus, la grève parisienne elle-même, elle est vraiment, à ce moment-là, sévèrement sur le déclin. On est à 3 semaines de grève, déjà. Donc elle est vraiment sur le déclin. Donc là, il y a aussi des délégués qui disent « Ah, mais bon, lancer une grève au niveau national, alors que sur Paris, c'est en baisse, c'est pas trop une bonne idée. » Mais ils peuvent pas non plus trop dire non, parce qu'ils sont un peu pris en otage avec cette histoire-là. Donc ils acceptent une sorte de... Ils font une proposition qui est en fait une proposition complètement faux cul. Ils disent « Ok, on veut bien appeler la grève nationale, mais à une condition. C'est qu'on ne soit pas seul. voilà, que les métaux ne soient pas seuls, et qu'on fasse la grève avec les cheminots, les dockers et les mineurs. Alors, à l'époque, au sein de la CGT, il y a effectivement une sorte de coalition qui s'appelle le cartel interfédéral. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça s'appelait comme ça. Le cartel dans lequel il y avait quatre fédérations poids lourds, cheminots, dockers, mineurs et métallurgie. Et donc, le comité fédéral national des métaux leur dit « Bon, nous, on veut bien marcher, hein, mais pas question d'être seul, pas question que la métallurgie se sacrifie toute seule. Nous, on veut marcher, mais avec tout le monde, quoi. Enfin, on veut marcher au moins s'il y a les mineurs, les dockers, les cheminots. » Et donc, ils renvoient quelque part la décision à d'autres instances. Ils disent « Il faut attendre la réunion du cartel interfédéral qui décidera, etc. » Deux jours plus tard, le cartel interfédéral se réunit. Et là, le cartel interfédéral dit « Ah, mais nous, on veut bien marcher, hein, mais à une condition. C'est qu'il y a aussi les Italiens, les Belges et les Anglais. » Et donc, il renvoie une date cette date existait déjà. Il se raccroche, en fait, à cette date, qui était la date du 21 juillet. Ça faisait des mois qu'on en parlait, que le 21 juillet 1919, on ferait une grève internationale pour l'amnistie, la démobilisation et la non-intervention. Bon, voilà. C'était un truc qui était déjà négocié à ce moment-là entre la CGT, les Italiens, les Belges, les Anglais. Et on parlait du 21 juillet. Et donc, du coup, le cartel interfédéral dit « D'accord. » Pour faire la grève, le 21 juillet, en gros. Voilà. Mais on est le 22 juin, et la grève parisienne est en train de décliner. Donc là, évidemment, c'est l'ultime coup de massue, et pour les grévistes parisiens, c'est la fin, quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, aussi bien le comité d'action que le comité d'entente des syndicats de la Seine appellent à la reprise du travail, parce qu'ils comprennent qu'en fait, c'est foutu, ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à l'extension, et quelque part, on leur a vraiment... Ils vivent ça comme une trahison. Alors à l'époque, je vous ai dit, le mot bureaucrate n'existe pas. Mais en fait, on dénonce les fonctionnaires syndicaux. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, les permanents. On dénonce les fonctionnaires syndicaux, les fonctionnaires confédéraux qui se sont ramollis, encroutés, qui sont des traîtres, des réformistes, etc., etc. Les Manitou, on les appelle aussi. Les grands Manitou de la CGT. Les grands Manitou de la CGT ont freiné, ont saboté, ont trahi la révolution. Ça va être... voilà. Le comité d'action, par exemple, dans les semaines qui suivent l'échec, enfin la fin de la grève de la métallurgie parisienne, ils envoient carrément des délégués en province, dont Louis Rimbaud, pour informer les syndicats de métallos de la province de ce qui s'est passé à Paris et de la façon dont ils ont été trahis, dont ils ont été sabotés. Et alors évidemment, dans la presse d'extrême-gauche dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit La Vie ouvrière, que ce soit Le Libertaire, que ce soit l'International, bon, on crie à la trahison. Je vais vous lire un passage, je ne le connais pas par cœur, donc je vais vous le lire. Je vais vous lire un passage de La Vie ouvrière, de Pierre Monat, parce que c'est Pierre Monat, donc c'est vraiment hyper bien écrit. Et ça résume vraiment très bien l'analyse qu'ont fait les révolutionnaires à ce moment-là de ce qui s'était passé. Et donc Pierre Monat interpelle les dirigeants confédéraux de la CGT dans cet article, et il leur dit, voilà. Dans La Vie ouvrière, Monat apostrophe les dirigeants de la CGT. Une vague de malaise social déferlée sur Paris, sur la France entière, du nord au midi. Sincèrement résolu à l'action, vous n'auriez pas hésité à enfourcher l'occasion qui se présentait. Jamais base plus solide n'avait pu être espérée. Vous l'avez refusée. À ce moment, mi-juin, vous n'avez su que mettre en garde contre les grèves politiques. Mérem disait « Oui, il faut rester bien sur les revendications économiques, il ne faut pas tout mélanger, la politique et l'économie. » À ce moment, mi-juin, vous n'avez su que mettre en garde contre les grèves politiques. Un mois après, mi-juillet, vous appeliez les travailleurs à faire une grève politique. Mais que voulez-vous qu'ils comprennent ces travailleurs? Vous avez laissé esquinter vos troupes, et c'est une fois fourbus que vous venez leur demander un grand effort? L'échéance est venue, le 21 juillet, et vous n'avez pas pu y faire face. C'est naturel. Votre fameux plan consistait sans nul doute à refuser l'action quand elle était possible et à paraître la rechercher quand elle ne l'était plus, afin de pouvoir nous dire « Vous voyez bien qu'il n'y avait rien à faire, que les masses n'étaient pas prêtes. » Parce que je ne vous ai pas dit, mais que la grève du 21 juillet, par ailleurs, elle n'a jamais eu lieu. Voilà. La CGT l'a annulée la veille, en considérant que ça n'allait pas marcher. C'est pour ça que les grèves de la métallurgie parisienne sont si importantes en 1919, c'est parce que elle marque vraiment la fin de tout espoir de réconciliation au sein de la CGT. Jusqu'en 1919, on pouvait se dire, bon, il y a un certain nombre de gens comme Jouot, etc., ils ont trahi. Pendant, en 14, ils ont trahi. Parce que voilà, ils ont l'union sacrée, la guerre, etc. Mais c'était, on n'était pas forcément encore sûr de ce qu'ils allaient faire en 1919. Est-ce qu'ils n'allaient pas quand même revenir un peu sur une ligne revendicative, révolutionnaire comme avant? Mais là, en 1919, la conviction est faite. C'est fini. Le divorce est en cours. Et ça va se terminer donc. Ça va prendre 2 ans de plus. Mais après cela, il va y avoir la grève des cheminots en 1920, où les révolutionnaires vont accuser aussi les réformistes de leur avoir planté un couteau dans le dos, etc. Et puis, vous allez avoir la scission de la CGT. Ça va vraiment se faire. Ce sera en décembre 1921. Et à ce moment-là, sentant en fait que la contestation interne monte de plus en plus au sein de la CGT, la direction confédérale va faire un choix drastique, puisqu'elle va décider d'exclure l'ensemble des syndicats, des syndicats dits minoritaires, hein, de la minorité. Ils vont les exclure, quoi. Jouot, Mérem, etc., vont exclure la minorité de la CGT. Et c'est là que ça va être la première grande scission confédérale. Et vont se constituer donc deux organisations concurrentes, la CGT, réformiste, et la CGTU, révolutionnaire, pro-révolution russe, où vont se retrouver les anarchistes et où vont se retrouver ceux qui vont devenir les communistes. Mais Louis Rimbaud, qu'est-ce qu'il fait, lui, après ça? Bon, Louis Rimbaud, bah, il est à l'image de tout un tas de militants de la métallurgie parisienne. Il est dégoûté, il est écœuré. Il n'en peut plus de dénoncer Mérem, le grand Manitou, les dirigeants confédéraux qui nous dégoûtent, etc., etc. Mais il ne va pas du tout se battre pour changer la CGT de l'intérieur. Alors, c'est contrairement à ce que vont faire la grande majorité des militants révolutionnaires de l'époque, les militants révolutionnaires, ils vont se battre pour changer la CGT à l'intérieur parce qu'ils sentent qu'en fait, la contestation va monter et qu'ils peuvent renverser Jouot, ils peuvent reprendre le contrôle de la CGT. Voilà. Bon, ça se finira par une scission, en fait. Louis Rimbaud, lui, il prend la tangente un peu. Il prend la tangente et il propose, enfin il se lance un peu, je pense que c'est un peu quand même, c'était un peu un rêveur aussi, hein, Louis Rimbaud. Et donc il se lance dans une entreprise qui va s'appeler les Conseils d'ouvriers syndiqués, les COS. Qu'est-ce que c'est les COS? Alors c'est sa grande idée, hein. Donc il fait des articles là-dessus, il fait des tracts, il fait des... Vous en avez un là d'ailleurs, par exemple, voilà, qui a été reproduit par l'autre Terre libérée, pardon. Voilà, comité d'action des conseils d'ouvriers syndiqués de la région parisienne. Alors c'est un tract, voilà, dans lequel Louis Rimbaud et ses partisans, parce qu'ils sont quand même quelques-uns à vouloir faire ça, proposent de créer une organisation à côté, en fait, de la CGT. Ils appellent néanmoins ça conseil d'ouvriers syndiqués. Pour quelle raison? Pour deux raisons, en fait. Parce que d'abord, il y a une masse énorme d'ouvriers syndiqués qui, de toute façon, ne suivent pas Jouot ni Mérem. Et parce qu'en mettant syndiqués, ça permet vraiment de faire comprendre que ce n'est pas une entreprise perverse de jaune ou je ne sais pas quoi, de briseur de grève ou un truc pervers téléguidé par le patronat, quoi. Donc, ils appellent ça conseil d'ouvriers syndiqués pour qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Et en fait, qu'est-ce que c'est les conseils d'ouvriers syndiqués? C'est un peu nébuleux. Mais grosso modo, c'est un truc qui s'inspire un peu des soviets. Voilà. Donc ils disent, dans chaque localité, il faudrait que se constituent des conseils d'ouvriers syndiqués qui réorganiseraient la production et la consommation. Comme on n'est pas, en fait, enfin, comme il n'y a pas eu de révolution donc en France comme en Russie, en fait, ça ne deviendra jamais un soviet, hein, bien sûr, les conseils d'ouvriers syndiqués. Ça va rester une tentative, finalement, de créer des coopératives de production et des coopératives de consommation. Ça restera un peu à ce niveau-là. Il va tenter de faire marcher ce truc-là pendant 2 ans, Louis Rimbaud. Il va faire des articles là-dessus. Il va défendre ça au Congrès de l'Union anarchiste en 1920. Il va grouper un peu des gens autour de lui, autour de cette idée. Ils vont tenter de vendre des actions pour créer une coopérative et tout. Bon, puis ça va pas marcher, ça va rester complètement une œuvre imaginaire et sur le papier. Et donc, il va prendre de plus en plus la tangente et il va se réorienter complètement son action vers plutôt la rédemption individuelle par le végétarisme, enfin, et surtout par le végétalisme, en fait. Et donc, ça va être la dernière partie de sa vie et qui va le conduire à quitter la région parisienne et à s'installer justement à Luynes. Voilà. Et donc, à Luynes, il fera essentiellement ça, terre libérée, un lieu d'accueil pour tout un tas de... pour des enfants, par exemple, orphelins, où on a tenté de, il a tenté de créer une sorte de communauté libre autour du végétalisme, voilà, et d'une certaine rédemption hygiénique et morale. Bon, voilà. C'était, et ça, ça a été la dernière partie de sa vie. Mais il aura joué ce rôle. Il aura joué ce rôle pas négligeable dans les grandes grèves de la métallurgie parisienne de juin 1919, qui ont donc été un moment important, une césure réellement entre le syndicalisme d'avant 14 et le syndicalisme d'après, celui qui va donner un peu plus la morphologie qu'on connaîtra pendant longtemps dans le syndicalisme français avec cette CGT réformiste, cette CGTU révolutionnaire. Voilà. Et j'espère que ça vous a intéressé, toute cette histoire. Voilà.